Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet autre épisode d'Aux Premières Loges. Écoutez, des très bons matchs de hockey, des matchs où on avait des équipes sur le bord du gouffre dans chaque confrontation qu'on avait. Non, pas chaque confrontation qu'on avait hier, mais deux en particulier.
Ouais.
Et une de ces équipes est tombée dans le gouffre. On va en parler plus tard. Mais
Yes.
avant d'aborder ces matchs, on est deux aujourd'hui, moi, Olivier
Yes.
Prince-Grelot, à l'animation, et je suis en compagnie du vénérable Doualé Ibrahim. Comment tu vas, Dou?
Écoute, je vais bien, merci. Très content d'être de retour. Ça faisait un bout, je n'étais pas venu, mais écoute, c'est nice. On parlait d'hockey, fait que je suis toujours présent pour ça.
Ben oui, puis écoutez, on enregistre ça encore tard le soir, même si on parle de la veille, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est là pour parler de hockey, avoir du fun avec vous, les auditeurs, fait que lançons-nous, Dou, avec
Yes.
le premier match qui avait lieu hier, celui entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs, on connaît l'historique des Leafs en série dans les dernières années, avaient l'occasion de se défaire du Lightning, eux qui menaient 3-1 dans la série. Ils jouaient à la maison à Toronto dans ce match numéro 5. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Encore une fois, les Leafs ne sont pas capables de clore une série. Malgré qu'ils aient pris l'avance avec Morgan Riley, déjà troisième but de la série pour Riley. Donc, les Leafs ouvrent la marque. Anthony Cirelli réplique du côté des Leafs, pas des Leafs, du Lightning, pardon. En deuxième période, c'est Michael Essimon, son premier but des séries, qui va faire 2-1 pour le Lightning. Vraiment un but que Samsonov devait absolument arrêter. C'était horrible comme but. Paul va faire 3-1 pour le Lightning. Et là, ça sent la soupe chaude à Toronto. On sent déjà ce qui s'en vient, mais quand même, les Toronto ont eu une lueur d'espoir du côté de Toronto. Austin Matthews s'inscrit au pointage. Tavares et Marner ont les passes. Déjà une neuvième passe pour Marner dans ces séries, mais c'était trop peu, trop tard. Alex Killorn va marquer en toute fin de match et faire 4-2. Donc 3-2 cette série-là. Le Lightning est toujours en vie. Les Leafs se rapprochent d'un autre épisode de cette malédiction-là. D'où tes impressions sur ce match-là des Leafs qui, encore une fois, ne sont pas capables de venir à bout de la première ronde.
Écoute, je pensais qu'on allait assister à quelque chose d'assez inattendu. Peut-être une qualification des Maple Leafs pour le deuxième tour. Mais malheureusement, pour les Leafs, André Vasilevskiy, pour la première fois dans cette série-là, a vraiment connu
Ouais.
un excellent match. Aussi, moi, je trouve que le Lightning, en tout cas, ont vraiment été plus opportunistes à plusieurs occasions. Écoute, malgré que moi, je trouve que Ilya Samsonov a bien joué en général, puis je trouve qu'il se débrouille quand même bien pour l'instant dans cette série-là. Vraiment
Pas dans
paru
le match
faible
d'hier,
sur.
on peut te le dire, là.
Ouais, c'est ça. Mais ça, il a paru faible à deux reprises, là, surtout sur le but de Simon et également sur le but de Nick Paul qui a donné quand même des retours assez
Juteux.
généreux,
Oui.
assez généreux devant son filet. Moi, j'ai trouvé que le Lightning a su vraiment rebondir, a quand même échappé le match numéro 3 et le match numéro 4. Cette série-là, en tout cas, aurait pu être 3-1 pour le Lightning si ce n'était pas il y a plusieurs circonstances qui ont fait en sorte que les Maple Leafs vont être
Ouais.
capables de remporter deux matchs à Tampa Bay. Mais écoute, cette série-là est loin d'être terminée. C'est peut-être une bonne chose pour le spectacle, mais encore une fois, c'est inquiétant de voir les Maple Leafs être encore une fois si près du but. Puis écoute, en tout cas, d'échouer pour cette rencontre-là. Il en reste encore deux rencontres pour espérer réussir l'exploit de se qualifier au deuxième tour la première fois depuis 2004. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au match numéro 6. Mais là, écoute, c'est inquiétant pour plusieurs raisons. On connaît l'historique des Maple Leafs. Vasilevskiy qui commence à bien jouer.
Ouais.
Et écoute, t'as les joueurs de soutien du Lightning qui ont été excellents hier. On peut penser à Nick Paul qui a marqué en fait son premier but dans cette série-là. Simon qui est à son premier match puis qui marque. Ça, c'est
Le
assez.
premier but de Paul depuis le mois de février, je pense.
Oh ouais, ça c'est quand même
Ouais.
assez particulier. C'est un deuxième match, pardon, dans la semaine dans ces séries-là. A quand même deux points. Écoute, c'est Riley aussi qui a bien joué. Brandon Montour,
Killorn.
Curtis Keller aussi qui a été très bon hier aussi. Écoute, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr que là, les Maple Leafs, il faudrait qu'ils se retirent de la tête puis qu'ils arrêtent d'être encore une fois bloqués puis juste se concentrer sur cette rencontre-là. Puis écoute, le match à Tampa Bay va être d'une importance capitale parce que j'ai vraiment l'impression que, écoute, si ça se retrouve du côté de Toronto pour un match numéro 7, les chances que les Maple Leafs battent le Lightning vont être extrêmement minces, même s'ils sont à domicile.
Je suis très d'accord avec toi. Je pense que si ça s'en va en match numéro 7, tu veux pas que ça arrive du côté de Toronto parce que ça pourrait être la fin. C'est tellement ancré dans leurs esprits, dans leur inconscient, cette malédiction-là que rendu en match numéro 7, c'est quasiment inconcevable pour moi qu'ils ne choquent pas si ça se rend là. Mais tu as mentionné quelque chose d'important. Les Leafs n'ont pas été la meilleure équipe dans cette série, selon moi, mis à part au match numéro 2 où ils ont dominé le Lightning. Mais à part de ça, les Leafs ne sont pas si dominants, ne dominent pas outrageusement leur adversaire, même s'ils ont mené 1 cette série-là. Et c'est pas tant une mauvaise chose parce que je pense que c'est important en série d'être capable d'être opportuniste, de ne pas nécessairement être la meilleure équipe sur la glace, mais d'être capable de gagner des matchs par l'opportunisme, par ça. C'est pas ce qu'on avait vu des Leafs dans les dernières années. On échappait souvent des matchs. On pense aux Canadiens de Montréal, là, où on faisait face à Carey Price en 2021. Mm-hmm. Fait que c'était quelque chose de bien, je pense, de gagner des matchs, même si on n'avait pas nécessairement été la meilleure équipe. Et là, hier, encore une fois, on n'a pas été la meilleure équipe, tant qu'à moi, mais cette fois-ci, on l'a échappé le match. On a tenté de revenir, et s'il y a un point positif qui se démarque des autres années, c'est que les gros joueurs, Marner, Matthews, entre autres, aussi Morgan Riley, qui a des bonnes séries, performent. Ça, c'est la bonne nouvelle des Leafs, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les années précédentes en série. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant du côté des Leafs. C'est ce qui me fait en sorte que j'ai peut-être un peu plus d'espoir qu'ils remportent le match numéro 6. Mais je suis d'accord avec toi, si on va en 7, j'ai de la misère à voir les Leafs remporter contre le Lightning qui est très expérimenté. Ouais, vas-y.
Ouais, ben défensivement, moi, je trouve que Toronto a plus de la misère que les dernières années. Là. Je trouve que Justin Hall, Giordano, qui est quand même assez âgé. Luke Shen, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas un grand défenseur. Mm-hmm. Pour vrai, si ce n'est pas de Morgan Riley, qui est excellent depuis le début de cette série-là, je trouve que défensivement, les Maple Leafs sont clairement inférieurs comparés à Tampa Bay, même si Tampa Bay a des blessés.
Tchernak, entre autres.
Surtout Tchernak.
Edman, qui n'est pas à 100%, clairement.
Qui n'est pas à 100% non plus. Même là, je trouve qu'ils sont clairement plus avantagés que les Maple Leafs. Puis écoute, Samsonov, oui, Samsonov n'a pas la meilleure des moyennes dans cette série-là, mais moi, je trouve qu'il n'est pas la raison pourquoi les Maple Leafs font autant de la misère défensivement. Je pense que c'est surtout le corps défensif qui a un peu de la difficulté. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce chapitre-là, mais c'est vrai, tu as 100% raison sur le fait que les Maple Leafs, écoute, c'est peut-être pas la meilleure équipe sur la patinoire, mais c'est une équipe qui était capable de t'opportuner sur le bon moment. Puis écoute, tu as Morgan Riley, tu as Ryan Riley aussi qui est très bon dans cette série-là. Bon puis point. Écoute, tu l'as mentionné, les joueurs qui, en tout cas, les gros canons des Maple Leafs qui sont présents pour l'instant dans cette série-là, on peut penser à Matthews, on peut penser à Tavares, à Nylander, Marner qui va quand même bien, mais que.
Très bien, Marner. Niveau points, niveau statistique,
ouais.
Va très bien.
Ouais, il va très bien. Je pense qu'il pourrait être encore mieux, mais tu ne peux pas demander mieux que 11 points en 5 games. C'est peut-être juste sur d'autres aspects que j'aurais aimé.
C'est qu'on a vu, on voit encore de la nervosité dans le jeu de Marner. Je ne sais pas si tu as vu en fait, dans les faits saillants, là, on voit que dans les dernières minutes, lorsque les Leafs essaient de. C'est 3-2, puis les Leafs essaient de créer la égalité avec. Le gardien qui était retiré. Marner fait des jeux de nervosité. Là. Il va de passe mal assuré. Et c'est, je ne me rappelle pas si c'est exactement ce jeu-là qui a mené au but en filet de zone de Killorn. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette nervosité-là, surtout du côté de Marner. Même si niveau statistique, ça va très bien dans cette série-là. Marner, on ne peut pas le repêcher sur sa production. Matthews aussi, là, des buts très importants, surtout dans le match. C'est le match numéro 4, je crois, qu'on est revenu derrière de 4-1. Ouais. Fait que ça, c'est des signes très encourageants du côté des Leafs. Ils sont encore en avance dans cette série-là. Donc, on ne serait pas censé paniquer, mais parce que c'est les Leafs, c'est sûr que ce sentiment-là qui trotte dans la tête des partisans de Kyle Dubas et des joueurs des Leafs, c'est sûr et certain. Ouais. Tu voulais-tu rajouter quelque chose là-dessus ou on passe à la prochaine série?
Je pense qu'on va passer à la prochaine. De toute façon, moi, j'ai hâte de voir le match numéro 6. C'est là qu'on va avoir une meilleure idée de si Toronto vont passer à travers leur traumatisme ou non.
Tout à fait. Puis écoute, je vais regarder ce match avec grand intérêt dès demain. Et pour ce qui est de. Et s'il y a un match numéro 7 qui serait lundi, Ça aussi, il faut être à l'écoute parce que on pourrait soit avoir un moment grandiose dans le hockey torontois ou encore un échec qui va encore faire rire grandement les partisans montréalais, ça c'est sûr. Et plusieurs autres partisans dans la Ligue. Bref, l'autre match dans l'Est qui se déroulait hier, c'était entre les Rangers et les Devils. Les Devils sortent de nulle part, c'est sexuel. Ben, pas de nulle part, mais au début, les deux premiers matchs de la série, ils allaient nulle part. Et là, le momentum a complètement changé dans cette série-là. C'est trois victoires de suite de la part des Devils qui mettent maintenant à deux. Première victoire à domicile dans ces séries pour eux. C'est André Palat. On parlait du Lightning. Palat qui a été un joueur clutch du Lightning en série bien longtemps. Ben là, il a été pour les Devils dans ce match-ci, son deuxième des séries. Eric Haula, très bon match avec Dawson Mercer également, qui fait 2-0. Mercer s'inscrit au pointage, lui également, sur une passe de Eric Haula, encore une fois. Et Haula qui va marquer un troisième but également, un quatrième but pour son équipe, un troisième but des séries pour lui. En troisième période, et les Rangers n'ont pas fait grand-chose dans ce match-là. 43-23 les tirs en faveur du New Jersey. 24 tirs bloqués de la part des Devils. Donc, offensivement comme défensivement, on travaille très bien. Et dans les buts, Akira Schmid est sorti de nulle part. Mais quelle belle nouvelle, quel bonbon pour les Devils. Là. Fait que je te laisse enchaîner là-dessus.
Écoute, honnêtement, je comprends rien dans cette série-là.
Moi non plus.
Je trouve ça hallucinant qu'est-ce qui se passe. Après les deux premières rencontres dans cette série-là, on pensait que les Rangers allaient remporter cette série-là en quatre matchs. Parce que moi, c'est ça que je pensais. Je pensais que les Devils étaient tout simplement pas dans le coup. Ils font un changement de gardien but et ils décident de remplacer Vitek Vanecek par Akira Schmid. Et Schmid, écoute, c'est pas compliqué. Trois matchs, trois victoires. Moyenne EB allouée de 0,63. Pourcentage arrêt de 976. Le gars est tout feu, tout ferme depuis le match numéro 3. Ouais. Il a été fantastique. Mais écoute, c'est pas juste ça aussi. C'est que les Rangers de New York, j'ai vraiment l'impression que c'est pas compliqué. Ils jouent pas avec le sentiment d'urgence. Fait que ça fait que ils ont pas été capables de trouver la faille pour déjouer à Akira Schmid. Puis, on dirait qu'il n'y a pas d'urgence. On dirait que c'est comme, on va trouver un moyen de gagner la série nanana. Mais sauf qu'en ce moment, ils ont quand même passé d'une avance de 2-0 et là, ils vont faire face à l'élimination à New York. Bon, l'avantage, c'est qu'ils se retrouvent à domicile. Fait que, pour Madison Square Garden. Donc, normalement, si les Rangers décident de... Parce que si les Rangers trouvent le moyen de trouver une faille pour déjouer Schmid, normalement, devrait réussir à s'en sortir. En tout cas, New Jersey qui a quand même joué leur meilleur match au meilleur moment, match numéro 5, quand même 43 tirs. Si c'était pas des Igor Shesterkin qui a été excellent, bon... Ça, il faut le mentionner. Igor Shesterkin a été excellent aussi. Honnêtement, cette rencontre, c'est pas compliqué. Si Shesterkin n'avait pas été bon, cette rencontre aurait pu se terminer 6-7, peut-être même 8-0. C'est pour dire à quel point Rangers n'était pas dans le coup. C'est ça, mais forcément, les Rangers, c'est hallucinant de voir comment ils ne créent rien depuis trois rencontres. Surtout quand si tu regardes la profondeur de cette attaque-là, c'est fou de voir qu'ils ont été juste capables de marquer, je crois que c'est 2 buts dans les 3 derniers matchs. C'est hallucinant de voir ça. Là. C'est fou. Puis surtout quand tu regardes juste le top 6, le top 9, là, juste le top 9. Tu as Zibanejad, Chris Kreider, Panarin, Tarasenko, Patrick Kane, Capo Caco, Philippe Ita, Alexis Lafrenière. Tu as probablement le meilleur top 9 de toutes les équipes en séries éliminatoires à l'heure actuelle. En ce moment, c'est la
panne. Et Adam Fox à la ligne bleue.
Adam Fox à la ligne bleue qui est un des meilleurs défenseurs de la ligne bleue.
Animation offensive.
C'est ça. Fait que normalement, c'est... puis Vincent Trocheck, c'est que j'ai oublié de mentionner également.
Trocheck,
qui a de la misère aussi depuis le début de cette série-là. C'est fou quand même de voir que cette équipe des Rangers est juste pas capable de créer rien offensivement. Donc, moi, personnellement, je pense que cette série-là ne va pas se terminer à New York. Moi, je pense qu'il va avoir un match numéro 7. Mais c'est quand même fou de voir à quel point cette série-là a juste changé de bord avec un changement de gardien de but. C'est quand même assez particulier tout ça.
Ben, ça montre à quel point l'importance d'un gardien dans les séries, mais aussi pour une équipe, à quel point ça peut amener un tout autre momentum dans une série. C'est exactement ce qui est arrivé avec la... aux joueurs du côté des Rangers qui ne se lèvent plus depuis trois matchs. Chris Kreider était tout fleu, tout flambe dans les deux premiers matchs. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Panarin fait des erreurs, Zibanejad aussi. Écoute, Kane et Tarasenko sont invisibles depuis trois matchs. Lafrenière, je suis désolé Alexis, mais il n'a rien fait dans ces séries jusqu'à maintenant. Il a dit lui-même qu'il devait en faire plus. On ne l'a toujours pas vu mais jusqu'à maintenant dans ces séries-là. Puis du côté des Devils, c'était Jack Hughes qui sonnait la charge de leur côté presque. Je pense qu'après quatre matchs, c'est lui qui avait trois des cinq buts des Devils ou quelque chose comme ça. Donc là, enfin, du côté des Devils, on voit d'autres joueurs s'inscrire à la marque. Le trio de Halla et Mercer là, qui a joué un très bon match ici. Ishier a obtenu une troisième passe hier. Palat aussi. Il y a encore d'autres joueurs que j'attends de voir un peu plus du côté des Devils. Thomas Tatar, Timo Meier. On sait que Tatar n'est pas un joueur de série, mais Meier l'est pas mal plus. Et je ne l'ai pas vraiment bien vu assez à mon goût dans cette série-là du côté de Meier. Mais reste que ça va très bien du côté des Devils. Entre autres, en raison de Schmid et aussi la défense, qui joue quand même bien. Là, même si on n'a pas les meilleurs éléments défensifs, vraiment pas. Mais Severson fait du bon travail. Steven Tyler.
Je trouve que la défense de New Jersey est quand même très sous-estimée. Là. Je trouve pas que c'est une mauvaise défense. T'as quand même
mais c'est pas la défense de l'Avalanche, c'est ça que je voulais dire.
C'est ça exactement. Mais t'as quand même des bons morceaux. Là. T'as Doug Hamilton, t'as Ryan Graves.
Doug Hamilton n'est pas un défenseur défensif. C'est plus
non, c'est ça exactement. Ouais. Mais quand même, tu restes que c'est quand même c'est une belle brigade défensive quand même. C'est pas rien. Mais c'est pas la merde. C'est juste ça que je
mais tu as raison, c'est pas mauvais, puis tu as raison qu'elle est sous-estimée. Un Severson, entre autres, là, je pense, qui est un joueur sous-estimé. Siegenthaler aussi, là, on n'a pas oublié ce gars-là, mais très bon défensivement, Siegenthaler. Bref, les Devils surprennent à la fois les partisans et les Rangers. Et tu as dit que toi, selon toi, les Rangers gagnent le prochain match?
Ouais, moi je pense. Moi, en tout cas, moi, vas-y. Personnellement, j'ai pris les Devils pour remporter cette série-là en 6 matchs. Okay. Donc, ça ferait plus que mon affaire si les Devils gagnent le match numéro 6. Mais franchement, de la manière que les Rangers de New York ne se sont pas présentés lors des deux dernières rencontres, puis qu'ils se retrouvent dos au mur à New York, je serais vraiment surpris que les Rangers ne fassent rien. Surtout, je ne sais pas si tu as vu à quel point Shesterkin était furieux lors de la deuxième période au dernier match. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un message qui va se passer dans le vestiaire des Avengers. Puis j'ai vraiment l'impression que les Avengers ne vont pas se laisser tomber. On l'a vu l'an passé en première ronde à pareille date. Il perdait 3-1 qu'on est épingle à Pittsburgh, 2-0 après une période et demie au Madison Square Garden. Ils ont trouvé les moyens de gagner leur série contre les Penguins. Et les Penguins, c'était quand même une équipe qui était expérimentée. Donc, je ne vois pas comment les Avengers auraient vraiment de la difficulté, encore une fois, à ne pas lever leur jeu d'un cran. Et surtout que, écoute, tu ne peux pas perdre 4 matchs de suite qu'on est devant une jersey.
Tu ne peux pas perdre 3 matchs au Madison Square Garden.
Exactement. D'autres, tu perds 3 matchs au Madison Square Garden qui est supposé d'être ta forteresse.
Exact.
Donc, moi, en tout cas, je pense personnellement que les Rangers vont gagner le match. Mais on sait juste parce qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'ils ne peuvent tout simplement pas échapper à cette game-là. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir les deux joueurs d'expérience. Ces deux acquisitions, là, les Patrick Kane et Patrick Mentalsenko, c'est leur match. Parce que je sais que Chris Kreider va se présenter probablement au match numéro 6, c'est assuré. Mais ces deux joueurs-là, ces deux champions de la Coupe Stanley, c'est des joueurs.
Et quatre Coupes Stanley à eux deux. Là.
Et c'est quatre Coupes Stanley à ces deux-là, c'est des joueurs d'expérience. Fait que normalement, ces joueurs d'expérience sont supposés d'être payants dans ce genre de rencontres-là. Donc, je m'attends à une rencontre extraordinaire de la part de ces deux joueurs-là, puis de la part de Chris Kreider, parce que Chris Kreider, on le sait, c'est probablement le catalyseur de cette équipe-là, surtout dans les moments un peu plus faibles. Fait que moi, je m'attends honnêtement à une victoire des Rangers au match numéro 6. Puis, écoute, le match numéro 7, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ça. Rangers, match numéro 6. Mais moi, pour mon bracket, j'espère que les Devils vont gagner le match numéro 6 parce que juste avoir tout simplement raison avec le bon match, avec le nombre de matchs exacts.
Mm-hmm. Ouais, moi, j'ai mis Rangers en 7 dans cette série-là, donc c'est encore très possible pour ma part. Tu penses que les Rangers vont gagner le prochain match? J'ai quasiment le goût de dire les Devils parce que les Rangers sont tellement éteints dans les trois derniers matchs et les Devils ont vraiment pris un momentum impressionnant. Ceci dit, le vent a tourné plus tôt dans cette série-là. Il pourrait très bien retourner de bord. Si on va dire que c'est une expression ce qui se dit. Fait que c'est ça. Je me dis que tout peut arriver dans cette série-là. On a vu que ça a changé en un claquement de doigts. Donc, on est prêt à tous les scénarios dans cette série-là. Et passons maintenant à la série qui est maintenant terminée. Parce que la première série à se terminer, celle d'hier, entre les Golden Knights de Las Vegas qui défait les Jets de Winnipeg en 5 parties. Les Jets qui avaient pourtant bien amorcé cette série-là en gagnant le premier match. Et moi, quand j'ai vu les Jets gagner le premier match, moi j'ai dit les Jets en 7. Je me suis complètement planté dans ma prédiction. Mais quand j'ai vu les Jets gagner le premier match de cette série-là, je me suis dit « Ah, je pense que j'ai bien fait. » Tu sais, ils ont bien joué. On n'avait pas vu beaucoup l'attaque de Vegas dans le premier match. Mais les 4 matchs qui ont suivi, ça fut totalement différent. Notamment dans ce match-ci, Chandler Stephenson, très bon match de sa part, va marquer en premier. Mark Stone, qui connaît une bonne série lui aussi, marque en deuxième période, suivi de Carlson et Stephenson encore une fois. Les Jets ont tenté de revenir, ont joué une troisième période pas pire, mais c'était beaucoup trop tard, là, à 4-0. Carl Connor va faire 4-1, on va avoir d'autres chances là, du côté des Jets, Pierre-Luc Dubois un peu, mais c'était vraiment pas assez pour rester dans cette série-là. Et les Jets, donc, qui gagnent 4-1, autant le match que la série. Quelle belle coïncidence. Oui. Et voilà, Connor Hellebuck ne pouvait pas tout faire du côté des Jets. Et je ne sais pas si tu as vu Rick Bowness en conférence de presse après le match. Totalement déçu de son équipe. No pushback, il a dit. Donc, en traduction, pas d'effort, pas de volonté de revenir. Autant dans le match que dans la série au complet, j'ai l'impression qu'il parlait. C'est vrai qu'on a un point important à mentionner, c'est Morrissey et Scheifele qui n'étaient pas là.
Et Nicolas Ehlers aussi.
Ehlers aussi, bon point. Ouais. Fait que, c'était des gros morceaux des Jets quand même, mais je comprends tout à fait le bonus là, d'être fâché et déçu. Les Jets n'ont vraiment pas offert le meilleur hockey qu'ils auraient pu offrir, surtout avec un Hellebuck qui t'a donné des chances là, de revenir. Puis on ne les a pas saisis du côté des joueurs, des patineurs des Jets.
Ouais, ben écoute, moi je pense que la logique était respectée au match numéro 5. Je ne voyais pas comment les Jets allaient remonter cette série-là, puis juste gagner le match numéro 5 et après ça remporter deux autres. Pour moi, c'était une mission quasi impossible, surtout avec le fait que tu viens de mentionner qu'il y avait quand même 3 blessés importants du côté des Jets de Winnipeg. Rick Bowness avait 100% des raisons de se fâcher. Puis écoute, honnêtement, il va avoir une sérieuse remise en question du côté de Winnipeg parce que, l'an passé, ils ont décidé de se départir de Paul Maurice après, je pense, presque 10 ans.
Mais c'est Paul Maurice qui avait quitté lui-même.
Ah, Paul Maurice, ouais, ça. Paul Maurice, c'est Paul Maurice qui avait quitté, non? Ouais, ça, c'était Paul Maurice.
Il avait quitté lui-même.
C'est ça, qui avait quitté parce que il mentionnait que c'était pas super sain. L'environnement du côté de Winnipeg. Puis écoute, on a entendu l'histoire.
On a retiré le titre de capitaine à Wheeler.
Puis écoute, on a entendu sur le fait que que Blake Wheeler et Mark Scheifele n'étaient pas des bons leaders dans le vestiaire. Écoute, c'est pas compliqué. Les Jets, surtout après la presque remontée spectaculaire du match numéro 3, s'attendaient à beaucoup mieux pour la suite des choses dans cette série-là. Mais écoute, avec le nombre de blessés, avec Vegas qui débloque au bon moment, écoute, le retour de Mark Scheifele pour la première ronde est juste arrivé au meilleur moment pour les Golden Knights. T'as ton capitaine qui a raté une bonne partie de la saison, qui revient au moment clé pour les séries éliminatoires. Puis écoute, tout le monde qui va bien du côté des Golden Knights. Je crois juste que la logique était respectée. Puis écoute, comme je t'ai dit, que ça reste la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le dossier Pierre-Luc Dubois? Écoute, moi, je suis un des rares. Ouais,
bon point.
Ça, je suis un des rares. Je l'ai dit depuis un bout. Je pense pas que je te l'ai dit, Mais moi, je ne suis pas un fan de Pierre-Luc Dubois qui vient à Montréal. Moi, c'est juste mon opinion personnelle. Il y a des moments, son inconstance fait que c'est pas bon pour Montréal. C'est pas compliqué. C'est juste que tous les ingrédients tous ces ingrédients-là, tu les mets ensemble à Montréal. C'est juste que ça ne fonctionnera pas pour Pierre-Luc Dubois à Montréal. Mais ça, c'est mon opinion personnelle là-dessus. Mm-hmm. Non, déjà ça. Il y a le dossier Pierre-Luc Dubois. Par la suite, là, Rick Bowness qui fait une sortie de la sorte. C'est sûr que tu t'attends à ce que le directeur général des Jets décide de
changer tout. Ben, Bowness a peut-être parti lui-même comme Maurice a fait. Là.
Non, c'est peut-être même.
On dirait que Bowness comprend ce que Maurice a vécu là, avec ce qu'il dit en conférence de presse. Là.
C'est ça. Puis écoute, est-ce que Mike Shaffley va de retour l'an prochain? Est-ce que Pierre-Luc Dubois va de retour? Est-ce que Blake Wheeler va revenir aussi?
Morrissey, il a connu une bonne saison.
Non, mais Morrissey, je pense que ça va bien. Il a quand même un bon contrat. Puis écoute, il y a quand même une saison. Il y a quand même une saison extraordinaire. Là, puis écoute, il va être probablement finaliste au Trophée Norris. Donc, je pense que Josh Morrissey, c'est une valeur sûre. Puis écoute, quand à l'époque, qui est un excellent gardien numéro 1. Donc, écoute, c'est Thierry qui est très décevant pour les Jets. Moi, personnellement, j'avais pris Vegas pour remporter en 6 rencontres. Mais c'est quand même, je m'attendais à une plus grande opposition de la part des Jets, surtout après le match numéro 3. Mais je crois que peut-être que le manque d'effort et surtout les blessures ont fini par attraper cette équipe-là qui était tout simplement plus de niveau pour affronter les Golden Knights.
Ouais, les blessures et, comme l'a dit Bonus, le manque de chien, le manque de volonté, de pushback, comme il l'a dit. Lui-même, pour Dubois, je comprends ton point. Moi, ça va dépendre de si on est capable de l'avoir libre, surtout, là, de pas faire d'échange cet été, qu'il finisse son contrat à Winnipeg. Mais bref, c'est un tout autre sujet. Je voulais revenir à ce que tu avais dit sur les capitaines. Adam Lowry s'est démarqué dans cette série-là. Ouais. C'est un nom qui revient là, au niveau du possible poste de capitaine chez les Jets. A montré son leadership, a montré qu'il était là dans les grands moments. C'est le meilleur joueur des Jets dans cette série avec Connor Lebock, selon moi. Là, c'est aussi simple que ça. Il était là tous les matchs. Il se donnait, il participait à l'offensive, même si ce n'est pas le joueur le plus talentueux. Mise en échec, il apportait son apport. Oublié cette phrase. Bref, voilà. Lowry, pour moi, c'est un candidat pour le poste de capitaine chez les Jets. Très bonne série de sa part. Et voilà, les Jets qui sont la première équipe la première équipe à être éliminée. C'est une équipe canadienne. Il reste seulement Toronto et Edmonton, donc représentants du Canada, en série. Voilà, Dou, tu veux-tu dire un mot de la fin ou on close ça?
Ben écoute, juste pour finir là-dessus, du côté des Golden Knights, moi, je ne serais pas surpris que les Golden Knights se rendent loin. Je trouve que c'est une équipe qui... moi, je trouve que c'est une équipe qui est presque complète. Le seul point d'interrogation, encore une fois, je l'ai, puis c'est même depuis des belles sorties au niveau des gardiens de but.
Laurent Brassois est très bon, ça s'est dit.
Laurent Brassois a été... Ouais, ça, il y a eu une bonne série contre Winnipeg. Mais là,
après, on va peut-être jouer contre les Oilers, c'est vrai.
C'est ça, si tu as affronté les Oilers d'Edmonton, t'es peut-être... Oh, en tout cas, on va laisser une chance aux Kings. Écoute, on ne sait jamais ce qui va se passer au match numéro 6. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer du côté de Los Angeles, mais moi, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Parce que s'ils affrontent une équipe comme les Kings, comme les Oilers d'Edmonton, moi, je pense que défensivement, ça va craquer du côté des Golden Knights, mais surtout les gardiens de but. Mais peut-être que s'ils affrontent des Kings, puis après ça, moi, j'ai l'impression que c'est plus ouvert du côté de la centrale. Bon, j'ai entendu notre bon ami Olivier Guillet, qui est un grand fan des Stars.
The Stars,
mais,
oui.
Écoute, je sais pas, en tout cas, on en parlera une autre fois, là, mais je...
Les Stars, est-ce que c'est égalité en ce moment entre les Stars et le Wild?
Les Stars vont battre... les Stars, c'est 3-0.
C'est 3-0? Bon.
Au moment qu'on a enregistré, c'est 3-0. Fait qu'ils vont battre le Wild, ça, c'est sûr.
C'est
fini
pour le Wild. C'est dans l'épisode de demain.
C'est dans l'épisode de demain. Puis écoute, on a hâte de voir si le résultat de Seattle Avalanche, c'est le résultat que moi j'attends le plus. Moi, je trouve que ça, pour finir sur l'épisode, je trouve que les Golden Knights vont très bien. Je trouve que tout le monde clique au bon moment. Puis c'est une équipe qui a le momentum pour l'instant. Puis ils vont avoir beaucoup de jours pour se reposer. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour cette équipe-là qui, Écoute, c'est une équipe qui est expérimentée. T'as des excellents joueurs de hockey. Donc, moi, je pense que cette équipe-là peut se rendre loin. Là, mais écoute, on ne sait jamais ce qui va se passer pour la suite des choses. Fait que c'est juste ça que je vais l'acheter.
Ouais, puis les Golden Knights disposent d'un très bon collectif, très solide. Tu sais, quand je les regarde, l'alignement, j'ai pas l'impression que c'est eux qui ont le plus gros punch offensif, mais ça marche. Les Stone joue très bien. Eichel produit, peut-être pourrait produire un peu plus, mais c'est pas trop pire. Pietrangelo va bien. La ligne de William Carlson, Marchessault, j'ai l'impression que c'est une ligne qui fait tout le temps son apport en série éliminatoire. Donc, ouais. Puis Laurent Brossois qui a très bien fait dans cette série.
Puis attendez, attends oui, aussi, ils ont l'arme fatale, les Golden Knights aussi, j'ai oublié. Le GOAT, Phil Kessel, faut pas oublier. Ils ont l'arme fatale.
Phil Kessel qui n'a pas joué, c'était le dernier match, ouais. N'a pas joué le dernier match, ça faisait depuis 2009, il n'avait pas raté une rencontre dans la Ligue nationale de hockey. Mais sa streak en saison régulière reste intacte, mais en série, c'est un chapitre qui s'éteint du côté de Kessel.
C'est pas grave, il en fait Kessel. Déjà là, il y a une arme fatale.
C'est l'arme fatale, Phil Kessel, on n'a pas oublié. Là-dessus, on vous souhaite de rêver au beau fil dans vos rêves en passant au Golden Knights ou pas, c'est comme vous voulez. Puis là-dessus, Dou, merci.
Merci, écoute, ça a été un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode.
Très bientôt pour un autre épisode dès demain. En mon nom et celui de tous les collaborateurs aux premières loges, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt.